Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer les syndromes d'Ehlers dans l'os non vasculaire et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Fabrice Gilas. Docteur Gilas, bonjour.
Bonjour.
Docteur Gilas, vous êtes médecin du sport, praticien hospitalier à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, au sein du service de syndrome d'Ehlers dans l'os non vasculaire, qui est le centre de référence pour ces symptômes. Alors, docteur Gilas, nous allons aborder aujourd'hui les syndromes d'Ehlers dans l'os non vasculaire du point de vue de la médecine générale ou de la médecine du sport. Et pour commencer notre entretien, on va d'abord s'intéresser à la principale caractéristique des patients touchés, l'hyperlaxité. Alors justement, quels sont les signes qui doivent faire penser à une hyperlaxité généralisée ?
Alors, avant de parler d'hyperlaxité généralisée, je voudrais dire qu'il existe plusieurs types d'hyperlaxité. Il y a des hyperlaxités en fait qui sont généralisées bien sûr, mais aussi des hyperlaxités qui sont localisées et on va le voir même des hyperlaxités qui sont uniquement périphériques. Et l'objectif en fait de l'évaluation de l'hyperlaxité d'un patient, c'est un peu de décrire cette hyperlaxité. Donc on verra en fait comment on mesure l'hyperlaxité, mais je dirais qu'il y a entre 4 et 5 grandes situations dans lesquelles il faut parler où il faut penser à une hyperlaxité généralisée. La première, c'est souvent chez des enfants qui ont des aptitudes ou des attitudes particulières. Je m'explique, quand vous avez un enfant qui est capable de faire le grand écart sans échauffement ou de mettre les pieds, voire un pied, voire deux pieds derrière la tête, faire des choses un peu particulières comme des mouvements d'hyperrotation interne des épaules permettant de faire ce qu'on appelle la prière inversée, ou même des attitudes d'assises particulières, des enfants qui vont s'asseoir en W. Il faut déjà se mettre en tête qu'on a peut-être un enfant hyperlaxe. On voit parfois des choses extrêmement impressionnantes, des enfants qui sont capables de faire sans aucun échauffement des positions particulières, soit le pont, soit ce qu'on appelle le scorpion. Alors, toutes ces attitudes en fait qui sont possibles chez l'enfant, elles sont bien sûr faites, comme je le disais, sans échauffement et de façon tout à fait naturelle. Elles montrent simplement une chose, c'est qu'on est face à une personne qui a une souplesse un peu hors norme. On peut aussi penser à une hyperlaxité généralisée quand tout ça est possible, mais aussi quand on a des enfants ou des adolescents qui sont particulièrement doués dans certains sports. Je veux parler là de la gymnastique, de la danse, même de l'escalade parfois, ou même dans des activités culturelles comme le piano, où on voit en fait que la personne va utiliser son hyperlaxité pour justement être comme un avantage en fait dans son activité sportive ou culturelle. Ça, c'est un premier point sur lequel je souhaitais insister. Le deuxième point, qui doit mettre la puce à l'oreille face à une hyperlaxité et se demander si cette hyperlaxité n'est pas pathologique ou si elle ne rentre pas dans un cadre pathologique, c'est quand elle s'associe à des complications précoces et récurrente. Donc c'est un jeune adulte ou un enfant qui va se mettre à faire des entorses de façon répétitive à un âge jeune. Souvent des enfants qui vers l'âge de 5, 6, 7 ou 8 ans vont commencer à se faire des entorses de cheville. Et ce qu'il va falloir surveiller, c'est la fréquence de ces entorses. Alors ça peut être des entorses de cheville, ça peut être des entorses de genoux, des entorses des doigts, des poignets, des coudes. Et toutes ces entorses à répétition doivent mettre la puce à l'oreille. À côté de ces entorses à répétition, on peut aussi avoir ce qu'on appelle des subluxations, voire des luxations qui vont arriver sans traumatisme, sans choc, soit au niveau des épaules, soit souvent au niveau des rotules. Et ça doit mettre la puce à l'oreille quand on s'aperçoit que le patient se luxe, surtout s'il se luxe dans des positions inhabituelles, car la luxation la plus fréquente est la luxation d'épaule antéro-interne, qui arrive souvent dans les sports de contact, comme le judo, comme le rugby, où il faut un choc important pour luxer l'épaule de sa cavité glénoïde. Là, on va voir des patients qui vont avoir des subluxations, ou qui sont en fait des luxations incomplètes, des luxations qui vont arriver de façon totalement inhabituelle, sans choc violent, et qui vont se faire dans des directions tout à fait inhabituelles, soit postérieures, soit inférieures, parfois antérieures, mais c'est justement ce côté un peu inhabituel de la luxation qui doit faire penser au médecin qu'on est peut-être face à une hyperlaxité localisée ou généralisée. Enfin, c'est aussi un patient qui va vous raconter qu'il a des mouvements un peu anormaux, qu'on appelle l'hypermobilité en France. Les anglo-saxons ne font pas la différence entre l'hyperlaxité et l'hypermobilité, ils appellent ça l'hypermobility. En France, on est assez fin au niveau de la différenciation. Nous, on va parler d'hyperlaxité quand nous, médecins, nous mesurons en fait la laxité. On parlera d'hypermobilité quand le patient va vous dire « j'ai des sensations un peu bizarres, comme si mon épaule bougeait plus que la normale » ou quand le patient vous dira « j'ai l'impression que ma rotule se balade ». On parlera donc d'hypermobilité parce que c'est un élément ressenti par le patient. Enfin, on peut parler aussi d'instabilité parce que c'est souvent ce que va ressentir le patient, l'instabilité articulaire qui peut se manifester de façon très très variable, mais c'est souvent une sensation d'un pied qui n'est pas stable ou d'une articulation qui est douloureuse. Et on va surtout parler d'instabilité au niveau souvent des épaules et des chevilles. Qu'est-ce qui peut encore mettre la puce à l'oreille face à une hyperlaxité? C'est quand il existe bien sûr un contexte familial. Et quand il est évident, quand on a une personne qui est déjà diagnostiquée dans la famille, c'est plus facile d'évoquer une hyperlaxité chez les enfants. Mais on a souvent des familles où l'hyperlaxité est uniquement constitutionnelle. Donc toute hyperlaxité n'est pas pathologique en soi. Enfin, j'aimerais terminer par un point qui est important aussi avoir en tête, c'est qu'un patient qui commence à cumuler les chirurgies de ligamentoplastie, il faut quand même se dire qu'il y a peut-être un petit problème d'hyperlaxité généralisé et on voit parfois arriver au sein du centre des patients qui ont déjà bénéficié d'une première ligamentoplastie de cheville, d'une deuxième ligamentoplastie de cheville, d'une transposition des tubérosités tibiales antérieures, voire d'une chirurgie de Bankart ou d'une butée. Et souvent, ces chirurgies sont des échecs parce que ces patients qui sont hyperlaxes ne vont pas en fait avoir des suites de chirurgie très favorables. Donc dès qu'on est face à un patient qui multiplie les chirurgies, il faut tout de suite se demander s'il n'existe pas une hyperlaxité généralisée qui rentre ou non dans le contexte d'un syndrome des nerfs dans l'os non vasculaire. Voilà un petit peu les grandes situations et les grandes familles d'hyperlaxité.
Et comment mesure-t-on précisément cette hyperlaxité ?
Alors, l'hyperlaxité est parfois difficile à mesurer et parfois mesurée de façon excessive. Au sein du centre de référence et dans tous les centres de compétences qui gèrent les syndromes des nerfs dans l'os non vasculaires, on utilise un score qui est reconnu mondialement, qui s'appelle le score de Bayton. Alors, il a des forces et des faiblesses, mais il permet à lui seul de diagnostiquer aujourd'hui l'hyperlaxité est généralisée. Alors, c'est un score assez simple à faire, qu'on peut faire dans n'importe quel cabinet. Il va mesurer en fait l'hyperlaxité au niveau de 5 articulations. La première étant la dorsiflexion passive du cinquième doigt de chaque main. Donc, on va rechercher une extension passive supérieure à 90 degrés. On va ensuite regarder la flexion passive du pouce sur l'avant-bras. Qui permet en fait d'avoir un contact passif entre le pouce et l'avant-bras. On va rechercher ça du côté droit et du côté gauche. On va ensuite s'intéresser à l'hyperextension du coude, le récurvatum du coude qui ne doit pas dépasser 10 degrés. On va faire la même chose ensuite au niveau des membres inférieurs en recherchant ce qu'on appelle le récurvatum de genou qui est une hyperextension du genou supérieur à 10 degrés. Et enfin, on va demander au patient s'il est capable de poser les deux mains à plat au sol sans fléchir les genoux, en ayant en tête que cette manœuvre peut être limitée par une raideur au niveau des ischio-jambiers qu'on peut facilement mesurer par ce qu'on appelle l'angle poplité, en recherchant l'extension du genou, soit en position assise, soit en position allongée. Et il est sûr que si le patient a une rétraction des ischio-jambiers, il sera très difficile d'aller poser les mains à plat à terre. Mais les patients, en général, hyperlaxes de façon généralisée, vont poser les mains à plat à terre de façon extrêmement simple. Alors, ce premier score de Beighton qu'on utilise dans le cadre du diagnostic des syndromes d'Ehlers dans l'os, il faut bien sûr le rapporter à l'âge du patient. Voilà, je rappelle encore une fois que l'hyperlaxité est quelque chose de très fréquent chez les enfants. Et il faut savoir prendre le temps de surveiller l'enfant et de ne pas aller trop vite vers le diagnostic d'hyperlaxité. Il faut les regarder, les évaluer à différents moments, et que toute hyperlaxité ne rentre pas dans le caractère d'une pathologie de façon systématique. Elle peut être tout à fait héritée, mais également acquise chez des gens qui font énormément d'exercices de souplesse.
Alors, face à un patient atteint d'hyperlaxité, quels sont les signes d'alerte qui doivent faire penser à un syndrome d'Ehlers dans l'os non vasculaire ?
Alors, ce qui va nous mettre la puce à l'oreille, encore une fois, c'est quand l'hyperlaxité est vraiment généralisée, déjà dans un premier temps, mais qu'elle vient s'additionner à d'autres signes. On parle de syndrome d'Ehlers dans l'os quand on a une association pathologique d'une hyperlaxité généralisée, d'une hyperélasticité cutanée et de signes de fragilité des tissus qui vont pouvoir s'exprimer de façon différente et à différents âges de la vie. Quand je parle de signes de fragilité des tissus, ça peut aller de la fréquence des hématomes qu'on va retrouver souvent sur les membres inférieurs, mais aussi sur d'autres parties du corps, et des hématomes qui vont être fréquents pour des chocs minimes ou qui vont apparaître de façon spontanée avec une taille souvent élevée. On peut aussi avoir d'autres éléments au niveau cutané, comme une peau qui va mal cicatriser ou qui va faire des cicatrices particulièrement inesthétiques, des cicatrices qu'on peut voir sous forme d'aspect large ou de façon avec des cicatrices kéloïdes. On peut aussi voir en fait des signes au niveau cutané comme des vergetures, qui ne sont pas les vergetures classiques liées aux variations de poids ou à la croissance, mais des vergetures très larges sur des zones qui ne sont pas habituelles, comme par exemple chez l'adolescent au niveau du dos, des vergetures qui vont être parfois très très importantes et arriver en général avant toute grossesse chez la femme. On va rechercher également des signes de fragilité au niveau d'autres tissus, des hernies à répétition, hernies ombilicales, hernies inguinales, qui vont apparaître de façon répétitive. C'est parfois en fait la découverte lors d'une grossesse, d'un accident comme une rupture utérine ou lors d'un examen endoscopique où une perforation colique va faire mettre la puce à l'oreille sur la possibilité d'un syndrome d'Ehlers dans l'os, surtout quand ce signe clinique est associé à l'hyperlaxité généralisée. Enfin, le morphotype du patient est très important. On peut voir des patients avec des morphotypes qu'on appelle marfanoïdes, qui peuvent rentrer dans le cadre d'un diagnostic de maladie de Marfan ou de maladie marfanoïde, mais on peut aussi avoir en fait des patients qui ont un profil marfanoïde sans avoir de maladie de Marfan, et parfois ces patients présentent des hyperlaxités avec des signes cliniques comme des scolioses ou des déformations du sternum, déformations atypes de pectus excavatum ou pectus carinatum. Tout ça peut et doit faire penser à une possible pathologie du tissu conjonctif, surtout si elle est associée à deux grands bras. Et à l'examen clinique, il est intéressant en fait de mesurer à la fois la taille des patients, mais également l'envergure des patients. Et un patient avec un profil morphanoïde aura souvent en fait un rapport envergure sur taille supérieur à 1. Donc voilà un peu les signes. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail en fait de ces signes, mais tous ces signes associés à l'hyperlaxité généralisée doivent adresser le patient à un spécialiste qui pourra avancer ou non vers le diagnostic de syndrome d'Ehlers dans l'os non vasculaire ou vasculaire.
Dernière question, docteur Gillas. Quels sont les examens qu'on peut faire dans un premier temps pour avancer dans le diagnostic avant d'adresser ces patients à un centre expert?
Alors, on l'a vu, le diagnostic de syndrome d'Ehlers dans l'os non vasculaire est un diagnostic clinique. Alors, c'est un diagnostic qui n'est pas toujours facile à poser. C'est un diagnostic qui doit nécessiter parfois du temps. Et donc, on ne pose pas un diagnostic comme ça dans l'immédiat quand on voit un enfant ou un adulte jeune hyperlaxe. On va parfois se donner le temps de voir comment évolue cette hyperlaxité. Est-ce qu'elle a tendance à se compliquer ou non? Alors, quel examen faire? Parmi les critères diagnostiques, il est important pour nous d'avoir une échographie cardiaque de bonne qualité dans les 3 mois précédant en fait le référencement au niveau du centre. Pourquoi? Parce qu'on va aller rechercher deux critères qui sont très importants pour nous. Le premier est l'existence d'un prolapsus plus ou moins important de la valve mitrale. Et le deuxième, qui est l'existence d'une dilatation de la racine de l'aorte, qu'on va mesurer sur l'échographie par le Z-score. Donc ça, c'est un examen qui est indispensable puisqu'il permet d'évaluer deux critères nécessaires au diagnostic de syndrome d'Ehlers dans l'os de type hypermobile. Ensuite, eh bien, comme chez tout patient, face à des complications ostéo-articulaires, les radiographies sont très importantes. On ne peut pas se passer de radiographie, notamment sur les zones qui sont douloureuses, quand il existe des accidents d'instabilité, des luxations d'épaule par exemple. Il nous faudra au minimum aller voir s'il n'existe pas d'éléments qui favorisent l'instabilité, des encoches par exemple au niveau de la tête humérale, et de bonnes radios des épaules de face, en profil neutre, en rotation interne, en rotation externe et en profil vont nous permettre déjà d'avoir une bonne évaluation de l'épaule. En ce qui concerne les genoux, il est important de ne pas passer à côté de dysplasie au niveau fémoro-patellaire, et donc on va pouvoir être amené à faire des radios de genoux avec des incidences fémoro-patellaires pour voir l'aspect de la trochlée. On pourra même aller chez des patients particulièrement instables jusqu'à un scanner pour évaluer la TAGT, qui va nous permettre de mesurer en fait cette dysplasie. Et chez certains patients, l'hyperlaxité peut parfois s'exprimer par des ruptures de ligaments croisés. Il faut systématiquement évaluer chez les patients hyperlaxes l'instabilité antéro-postérieure au niveau des genoux. Et on va voir qu'en fait, chez ces patients, souvent, le Lachman est retardé, lié à l'hyperlaxité ligamentaire au niveau des ligaments croisés. Donc l'examen du genou doit être particulièrement attentif, bilatéral et symétrique pour rechercher cette hyperlaxité au niveau des ligaments croisés. Et on sera parfois amené à faire une IRM quand on a un doute, en ayant toujours à l'idée que ces patients hyperlaxes sont vraiment des arrêts retardés. Et on peut être parfois surpris en pensant qu'on a une rupture de ligaments croisés chez ces patients. Il ne faut pas faire d'arthroscanner de première intention simplement pour voir. Ces examens vont être demandés quand il y aura un doute par les orthopédistes pour aller examiner soit le bourrelet glénoïdien au niveau de l'articulation de l'épaule, soit les structures cartilagineuses. Alors, ce qu'il est important également d'évaluer chez les patients, c'est la statique rachidienne. Il est très très important de rechercher chez les patients hyperlaxes l'existence d'une scoliose qui est plus fréquente que dans la population générale. On a fait une étude dans le service chez des patients qui présentaient une scoliose et on a retrouvé juste une scoliose jusqu'à 30% des patients dans les syndromes d'Ehlers dans l'os hypermobile. Donc il faut systématiquement évaluer la statique rachidienne chez les patients. Il suffit simplement de leur demander de se baisser. C'est ce qu'on fait dans l'évaluation du score de Beighton, et on peut voir apparaître une gibbosité thoracique ou une voussure au niveau lombaire qui va tout de suite mettre la puce à l'oreille et qui va pousser le médecin à demander une radio de rachis et surtout un néos du rachis, examen peu irradiant et qui permet de voir le rachis dans sa globalité ainsi que le bassin et qui permet de mesurer certains indices et notamment l'indice de Cobb qui va permettre de mesurer le degré de cette scoliose. Alors, on couple systématiquement l'examen du rachis à un examen podoscopique parce que les patients hyperlaxes vont souvent avoir des déformations au niveau des pieds. On va pouvoir bien sûr détecter des pieds creux, mais souvent des pieds plats. Et c'est surtout des pieds plats avec des effondrements de la voûte plantaire qui doivent mettre la puce à l'oreille également, et qui sont des signes d'hyperlaxité articulaire. avec souvent l'existence d'un arrière-pied en valgus. Le reste des examens vont être décidés en fonction des critères cliniques et parfois pour faire un diagnostic différentiel parce que toutes les hyperlaxités ne sont pas des syndromes d'Ehlers dans l'os comme j'ai pu le dire précédemment. On va pouvoir parfois être amené à faire une IRM du rachis quand on est par exemple face à une abolition des réflexes cutanés abdominaux pour rechercher d'autres pathologies. Comme le syndrome de Marfan ou l'existence d'une syringomyélie. Donc, des examens qui doivent être faits en fonction de la clinique et des complications d'hyperlaxité. Et puis, il faut bien sûr ne pas hésiter à demander l'avis quand on a un doute avant d'adresser un patient dans un centre de référence des syndromes d'Ehlers dans l'os. Il faut demander l'avis soit à un rhumatologue qui est habitué à l'hyperlaxité, soit à un interniste, soit un orthopédiste, parce qu'il faut avant tout éliminer toutes les hyperlaxités qui peuvent rentrer dans d'autres types de pathologies. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les pathologies dans lesquelles on retrouve de l'hyperlaxité, mais l'hyperlaxité peut être bien sûr d'origine ligamentaire, elle peut également être d'origine musculaire. Et rentrer dans le cadre de pathologies neuromusculaires, elle peut rentrer dans le cadre de pathologies neurologiques, elle peut rentrer dans le cadre de pathologies rhumatologiques, de pathologies endocriniennes. Donc il faut d'abord en fait faire un débrouillage clinique et éliminer toutes les pathologies sources d'hyperlaxité plus ou moins importantes avant bien sûr de référer le patient au centre de référence des syndromes d'Ehlers dans l'os non vasculaire. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui de façon rapide sur le démembrement de l'hyperlaxité généralisée et des éléments qui doivent orienter le patient vers un syndrome d'Ehlers dans l'os de type non vasculaire.
Eh bien, merci mille fois, Dr Gilas, de nous avoir éclairé sur ces syndromes d'Ehlers dans l'os non vasculaire du point de vue de la médecine générale ou de la médecine du sport. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de ces pathologies, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur les syndromes d'Ehlers dans l'os non vasculaire. À très vite.